mail au Kasai oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, un cadre d'échange et des débats citoyens sur la fréquence de la paix. Le gouvernement congolais a décidé de retirer à partir de juin prochain toutes les fréquences analogiques octroyées aux chaînes de télévision. Selon son porte-parole, Lambert Mende, cette décision est motivée par l'idée du gouvernement congolais de passer de la diffusion télévisuelle analogique à celle numérique terrestre d'ici juin prochain. Certains professionnels des médias estiment que ce passage va nécessiter l'amélioration de la qualité des programmes proposés actuellement par les télévisions. Une autre opinion soutient par contre que cette décision va constituer un défi financier pour les entreprises ainsi que pour la population. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez déposer vos commentaires et vous avez également la possibilité de nous appeler directement au 081-890-6315. Dieudonné Nyangasa est à la console. Julie Feza Bongonda et Piro Elamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages sur notre page Facebook. Roku Abia Ndi Onyaku, JR, vous avez dit il y a près de 10 ans que cette décision a été prise au niveau international, à Genève notamment. Le gouvernement congolais aurait dû informer le public et les médias de migration de l'analogie à la numérique. Au plus tard, au mois de juin 2015, il faut migrer, même si certains vont se noyer dans la mer méditerranéenne. C'est la vie médiatique. Dit quoi Moulamba, le gouvernement congolais a raison dans ce sens où nous devons quitter de l'analogie à la numérique, mais le grand problème est que cette décision est venue brusque, d'où il fallait commencer par préparer le peuple progressivement. Mesdames et messieurs, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio monsieur Ebeli Popo qui est avec nous. Bonjour monsieur Ebeli.
Bonjour monsieur Lungembo.
Voilà, vous êtes promoteur de BRT Africa et aussi la radio BR FM qui émet sur 98.6 FM.
Merci.
Voilà, donc vous êtes également promoteur d'une société de télédistribution, Business Television Network.
Également.
Voilà. Alors, je crois que vous avez suivi l'actualité comme nous et vous êtes promoteur d'une télévision. Aujourd'hui, comment vous commentez-vous cette décision du gouvernement?
Au fait, je voulais corriger un peu ce que vous avez dit dans votre introduction. Le gouvernement congolais n'a pas pris une décision de retirer les fréquences. Au fait, c'est l'Union internationale de télécommunications qui était basée à Genève, qui depuis plusieurs années avait informé le pays africain, certains pays africains qui étaient en retard par rapport à la mise en place du système numérique, que je crois que c'était lors des GE06, ça fait plusieurs années. Donc ils ont demandé à ce que tout le monde soit muté vers le nouveau système qui était le système numérique. Donc je crois que c'est pas un problème de retrait direct des fréquences. Et les opérateurs médiatiques de médias étaient informés. Et je crois que le gouvernement, bon là, c'est là où je n'ai pas assez d'informations. Le gouvernement avait demandé à une société italienne basée ici, de mettre en place toutes les structures afin de faciliter cette mutation. Donc, moi, je voudrais corriger.
Alors, la décision,
elle est internationale.
Voilà. Alors, un terme clair. Basculer de l'analogie vers le numérique. Ça veut dire quoi concrètement?
Le problème, bon, je suis pas très technicien. Moi, je suis un opérateur, un commerçant, je suis un opérateur dans les médias. Au fait, le problème, c'est quoi? Le problème est que, à travers le monde, tout le monde a numérisé son système. que ce soit les caméras que vous utilisez, même les écouteurs,
après,
tout est numérisé, tout est en digital. Mais il s'est fait que les pays africains, nous sommes toujours les derniers à prendre parfois, à chercher, à changer les contenus de nos moyens.
Oui, en d'autres termes, le numérique, c'est l'amélioration de la qualité.
Au fait, c'est l'amélioration, c'est la haute qualité. C'est la haute qualité. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en France, vous êtes dans la maison, vous êtes seul, et que vous avez un grand écran, je crois qu'il y a des moments où vous vous sentez comme si vous étiez dans la télé. Donc, vous voyez, les choses sont d'une manière naturelle et des hautes fidélités, vraiment des hautes qualités. Donc, je crois que c'est pour améliorer, pour nous, les vendeurs de son, les vendeurs d'images, nous sommes pour cette mutation. Mais il faut pas mélanger les choses. Il y a peut-être des problèmes de budget, d'investissement, tout ça. Mais en termes de qualité, nous, on court de
Voilà, vous partagez le point de vue de certains professionnels des médias qui estiment que ces passages vont nécessiter l'amélioration de la qualité des programmes d'ailleurs proposés actuellement par les télévisions. Mais une autre opinion soutient par contre que cette décision va constituer un défi financier pour les entreprises.
Voilà,
pour les entreprises c'est là où la population.
C'est là où il y a un petit problème.
Oui.
C'est là où il y a un petit problème. Je disais, donc nous sommes en retard par rapport à cette grande et bonne décision, tout simplement parce qu'il y a un problème de budget, il y a un problème d'argent.
Oui.
Et chez nous, les structures ne sont pas mises en place pour faciliter ces tâches. Donc, ça pose ces problèmes-là. Les banques ne suivent pas, les banques ne facilitent pas la tâche. Le gouvernement, on ne peut pas, avec un budget de 7 milliards sur cette étendue-là, ponctuer là-dedans pour aider les opérateurs médiatiques. Donc, il y a tout ça, c'est un problème. Personnellement, j'ai payé 610 000 dollars pour avoir 6 fréquences et j'attendais à ce que CNC commence à faire lancer également le système de télédistribution. Donc je vais essayer de voir mes collègues pour lesquels l'ARPTC m'avait déjà assigné les fréquences afin qu'on essaye de mettre en exécution ce que le ministre Lambert Mende avait dit dernièrement, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à encourager les opérateurs congolais qui sont dans les secteurs et qui veulent se constituer en consortium afin de lancer également la télédistribution. Donc je crois qu'on va commencer les travaux au courant de la semaine prochaine.
Alors là, maintenant nous prenons la part de la population, parce que c'est vrai, la population va désormais faire le choix pour les postes de téléviseurs, surtout choisir des postes de téléviseurs compatibles.
Nous sommes très mal barrés depuis la colonisation. Nous sommes très mal partis, nous étions très mal partis. Au fait, on doit avoir le sens des créativité. On doit avoir le sens de la création de la richesse. C'est une forme de création de richesse. Si aujourd'hui, imaginez, vous avez fait l'IFASIC, vous avez terminé des grandes universités, mais très rarement dans la ville, il y a des chansards peut-être, très rarement dans la ville, vous trouverez un journaliste riche. Vous voyez, même les éditeurs de journaux, ils vendent combien ? Ils vendent combien ? Donc nous, par exemple, on a amené pour les éditeurs de journaux, on a amené le système des e-commerce pour vendre les journaux congolais sur Internet, sur le net. Et ça a pris 3 ans, mais maintenant les Américains sont arrivés. Donc on va le faire. On va le faire très bientôt. On a lancé des lettres à tous les éditeurs pour venir vers nous. Donc ici, quand on va mettre le système de télédistribution en place, les télévisions privées travaillent gratuitement. Ça fait des années. Moi, j'ai implanté ma télévision BRT Africa depuis 2006. Mon salaire n'atteint même pas 30 dollars par mois. Je suis président directeur général de cette chaîne. Donc, on me paye 30-35 dollars par mois, imaginez. Et les journalistes, 6 mois PDG, j'ai ce salaire-là. C'est par rapport à ma recette. Les annonceurs, c'est pas contrôlé. Les gens, il y a des agences qui se sont créées. Le système n'est pas vraiment régulé. Donc, ça pose un problème. Aujourd'hui, si nous commençons à vendre les images, c'est-à-dire travailler avec ces systèmes-là parce que c'est crypté. Donc, celui qui veut accéder, parce que, au fait, le gouvernement aura ses 3 chaînes. C'est très en clair.
Alors,
mais le privé, il faut acheter.
Il faut acheter, c'est la création de la richesse.
Est-ce que toutes ces chaînes qui, qui sont passées de la diffusion télévisuelle analogique à celle numérique, terrestre, depuis très longtemps, parce que nous suivons Canal Plus ou encore d'autres décodeurs tels que DirecTV, voilà, est-ce qu'ils ont pu améliorer leur offre d'information?
Les grands problèmes, c'est le pouvoir d'achat de la population, tout simplement. Mais il faut voir un peu d'un côté. La contrepartie, c'est quoi? Il faut créer de la richesse. Si on veut augmenter le pouvoir d'achat de la population, il faut créer de la richesse. Et on ne peut pas manger des omelettes si on casse pas les œufs. Donc on doit nécessairement commencer à vendre les images. On va constituer une couche de population qui aura le pouvoir d'achat. Ce serait déjà les journalistes. C'est-à-dire le propriétaire.
Une couche de la population qui n'aura plus accès à l'information.
Mais il faudra chercher. Vous savez, quand Vodacom est venu dans notre pays, il y a je ne sais pas combien d'années, on disait que la population congolaise n'avait pas de moyens pour avoir des téléphones. Mais il y a combien d'opérateurs en téléphonie aujourd'hui? Et vous voyez, quand vous regardez très bien, je parle de Kinshasa, là où j'ai vu.
Tout à fait.
Donc les gens ont 2-3 téléphones en main. Donc ils ont 2-3 téléphones. Ils ont Tigo, il y a quelques années, on disait que c'était pas possible, c'est trop cher, on ne pouvait pas. Donc, la population a ce réflexe-là de suivre. Il faut toujours avoir l'idée de créer, les gens vont suivre. Parce que la population, elle est là. Il faut l'éduquer, il faut les former. Et la population a besoin de l'information quotidiennement. Donc la population va trouver ces réflexes-là. Ils auront le réflexe de chercher de l'argent, de trouver des moyens pour payer. Et parce que ça ne sera pas trop cher. Nous, par exemple, notre système de BTN, je crois que le maximum, ça sera 10 dollars par mois.
Est-ce que vous pensez, comme les autres, que c'est une des solutions dans ce projet de l'assainissement de l'espace médiatique congolais aujourd'hui, qui est maillé
au contraire, parce que avec l'analogie on a 54 programmes, n'est-ce pas, mais avec le numérique, une fréquence analogique peut produire dans d'autres systèmes 30 programmes. Imaginez, ça peut produire 30 programmes. Donc, on peut se retrouver avec une fréquence, 30 programmes. Il y en a qui donnent 25, il y en a qui donnent 15. Ça dépend de la qualité qu'on veut utiliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en système câblé, on peut se retrouver avec 1000 programmes.
Donc, c'est abusivement que les gens
pensent que
le gouvernement est en train de faire la guerre contre les
promoteurs. Personnellement, je ne pense pas, parce qu'il y aura beaucoup de programmes et on peut absorber les 54 juste dans un bouquet.
081-800-9-7315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur votre page Facebook. Nous parlons de cette décision, en tout cas partie sur le plan international, qui a été relayée par le gouvernement congolais, qui avait décidé donc, à partir du mois de juin, que toutes les chaînes de télévision puissent basculer, de passer de la diffusion télévisuelle analogique à celle numérique terrestre d'ici donc au juin prochain. Certains professionnels des médias estiment que ce passage va nécessiter l'amélioration de la qualité des programmes proposés actuellement par les télévisions. Vous venez de suivre notre invité. Et une autre opinion soutient par contre que cette décision va constituer un défi financier pour les entreprises ainsi que pour la population. Qu'est-ce que vous faites comme commentaire?
Parole aux auditeurs.
Maître Adrien, vous êtes à Kananga, vous êtes le premier à ouvrir ces débats. Vous êtes avec nous. Bonjour, Maître Adrien.
Oui, bonjour, cher Lungembo. Bonjour, merci de l'invité.
Vous avez la parole, Maître Adrien. Comment vous commentez cette actualité?
Oui, d'entrée de jeu, je me rallie à la dernière opinion qui estime que ça risque de poser de sérieux problèmes. Pourquoi je dis ça? Il est vrai que c'est une mesure qui date depuis plus de 10 ans, qui a été prise à Genève. Mais il faut voir le pays européen, comment est-ce qu'ils ont mis les programmes en œuvre. C'était progressivement et après avoir alerté d'abord leur population respective. Et puis, deuxièmement, à ce qui nous concerne, lorsqu'on prend une décision brusque comme ça, On n'a pas préparé la population, on n'a pas alerté la population. Et personnellement, hier, je suis en train de craindre que cette décision ne puisse pas entrer en contradiction avec la loi qui est en étude au niveau du Sénat, laquelle loi a été défendue par l'honorable Moïse Nyarugabo. Je lis certaines dispositions de cette loi, ça entre en contradiction avec la décision qui est prise par le ministre de l'Information. En quoi? C'est lorsque on veut maintenant faire croire, ou bien on veut maintenant, on veut faire croire à la population que l'information deviendra maintenant payante, parce que si vous n'avez pas de frais, comme ça se passe avec nos amis de Canal Plus, et vous n'aurez pas droit à l'accès à l'information. Or là, ça sera très dangereux. Et même lorsque l'invité fait allusion aux appareils cellulaires et ainsi de suite, mais il doit se rendre compte que ce n'était pas obligatoire, hein, c'était facultatif, et ça commençait comment? Ça commençait avec un taux très bas de la population, et au fur et à mesure, c'est comme ça que la population s'abonnait petit à petit. Moi, je pense que la décision n'est pas du tout mauvaise, mais c'est la manière de la prendre qui me prend un peu mal à l'aise, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il reste peu de jours pour atteindre le mois de juin. Comment la population doit s'y prendre? Et puis la population, lorsque je vous parle, même moi qui interviens, c'est une surprise, je n'avais pas cette information. Et si nous autres, nous sommes surpris par la décision, à combien plus forte raison, nos frères et sœurs qui sont à
risque d'avoir des problèmes.
C'est là que moi je pense que hier, il était mieux qu'on commence d'abord par informer et
sensibiliser la population. Merci beaucoup, M. Adrien. Pour vous, la décision n'est pas mauvaise du tout, mais elle est prise dans la précipitation. Il était question d'ailleurs pour préparer déjà les esprits des uns et des autres qu'elle soit prise et qu'elle doit passer donc progressivement son exécution. Et vous craignez, donc vous pensez que cela est contraire à cette loi qui est initiée au niveau du Sénat par le sénateur Moïse Nyarugabo, qui cette loi est relative à l'accès à l'information. Merci beaucoup, M. Adrien, d'avoir accepté de participer à cette émission à partir de Kananga. Pierre-Célestin Kabala-Mouanamboui, vous êtes chroniqueur sportif et aussi un grand analyste que nous recevons souvent dans cette émission. Vous avez souhaité participer à cette émission. Pierre-Célestin, vous êtes avec nous.
Bonjour, JR. Et je n'interviens pas comme sportif.
Voilà.
Rassurez-vous, d'abord, salutations à tous les auditeurs. Je suis en plus doublé des études de recherche en sciences et l'information de la communication à l'Université de Bordeaux. Et j'apprends aux auditeurs qu'il y a 3 ans, je participais à un séminaire relatif à cette mutation de l'analogique au numérique. C'est un phénomène, une décision, nous l'avons dit, et qui découle de la réforme internationale des systèmes de télécommunications et de diffusion radio-télévisée. Vous vous rappelez que chez nous, nous avons eu l'inauguration de la pose du câble TNT, et c'est la révolution justement de la technologie moderne. Et la République démocratique du Congo est l'un des pays fortement en retard par rapport à cette révolution. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont déjà accompli toutes les étapes. Chez nous, ça paraît comme inopiné. C'est un problème de gouvernance, tout simplement. Parce que depuis l'inauguration du câble optique, on a oublié ce qu'il fallait faire. Il y a à peu près 10 étapes qu'il faut franchir pour arriver au basculement de l'analogique au numérique. Et quand je suis revenu de Dakar, où il y a eu ce séminaire, j'ai tenu un point de presse et j'ai alerté et le gouvernement et l'opinion publique. Alors, toutes ces étapes, malheureusement, n'ont pas été accomplies. Il y a des étapes qui relèvent du domaine administratif, du domaine juridique, du domaine économique, du domaine social. Et comme ça, inopinément, on décide, on dit, demain, il n'y aura plus de... Vous savez ce qui va arriver, c'est quoi? C'est la population qui va en pâtir. Parce que à la date échue, tous nos appareils téléviseurs actuellement à l'analogique afficheront du noir. J'ai eu à l'expliquer même au niveau du budget où j'ai été défendre justement l'acquisition du matériel à numérique. Parce qu'il y aura le système numérique qui est incompatible avec l'analogique et dans notre pays, beaucoup des postes télévisés actuellement sont en analogique. Donc ceux qui ont des postes analogiques seront obligés d'acheter des décodeurs. Mmh. Ces décodeurs, c'est un enjeu économique, rassurez-vous. Et qu'il faut que le gouvernement signe un contrat avec un vendeur attitré. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire qu'il y a des pays qui ont connu énormément de difficultés parce qu'il y avait des vendeurs, excusez-moi de le dire, chinois qui ont amené de l'intérieur un peu de la camelote. Ça posait problème, par exemple, au Madagascar, où on a dû chercher un nouveau vendeur pour trouver un matériel pliable. Ce sont des dispositions qu'il faut prendre parce que c'est un enjeu économique important quand on renouvelle tout l'équipement dont dispose et la population et le gouvernement au niveau de la production, de la diffusion et de la télédiffusion. Alors, il y a un autre problème qui se pose au niveau du choix du diffuseur international de notre système. Il y a eu une commission nationale de mutation qui a été constituée mais qui a travaillé presque en vase clos, qui ne s'est pas ouverte aux autres. Et c'était presque une mèche noire. Et tout d'un coup, on dit, demain, fini, on est dans le numérique. Mais il y a la population, il y a la Fédération des entreprises du Congo, il y a tous les consommateurs qui sont concernés par ce qui va arriver dans notre pays. Mais même les vendeurs, actuellement, quand vous circulez en ville, mais tous les appareils téléviseurs sont en analogique.
Tout à fait.
Et ils coûtent cher, quand il faut les renouveler. Il faut
oui, alors ça va
personne n'aura plus le droit de vendre ces appareils-là parce qu'ils ne seront plus utiles.
Bien fait,
alors, il y a un autre aspect qu'il faut évoquer, c'est que lorsqu'on va basculer vers le numérique, on va dégager tout ce qui est analogique. Il y aura énormément de bandes de diffusion qui seront vides. Ces bandes-là peuvent être exploitées d'une autre manière. Il faut des conférences, il faut des forums pour que les gens échangent à large échelle pour savoir quelle est l'ouverture qu'on pourra faire pour les autres opérateurs économiques qui pourront bien exploiter ces bandes analogiques qui resteront libres. Tout ça, c'est un programme qui doit être planifié dans une application.
Tout à fait.
Et tel n'a pas été le cas, c'est bien dommage. À brûle pour point, on dit que c'est demain. Et demain, effectivement, il y aura beaucoup de problèmes pour l'application efficiente de cette décision qui découle de la révolution de la technologie des communications à travers le monde.
Oui, Pierre Célestin, mais il y a quand même le gouvernement qui rassure la population le fait que le diffuseur international choisi par lui a fait quand même preuve de la qualité de l'offre des services pour ne pas citer Téléconsult.
Eh bien, moi j'ai mis des réserves. C'est mon droit et j'ai été, pourquoi, je parle en connaissance des causes, c'est le droit du gouvernement de penser ce qu'il pense, mais je vous apprends ceci, la qualité dont on parle, c'est peut-être au niveau de la clarté de l'image, mais la production elle-même, quelle est la qualité de la production au niveau national? Regardez toutes nos chaînes de télévision, la production c'est quoi? Mais il faut penser tout ça, il faut repenser. Nous diffusons des programmes qui viennent de l'extérieur, qui ont de la qualité, mais nous-mêmes, parce que nous sommes maintenant dans le village universel. Et ce qu'on avait prôné il y a quelque temps, maintenant ça se réalise. Mais qu'est-ce que nous donnons, nous, dans ces rendez-vous du donné, qu'est-ce que nous diffusons? Parce que nous serons vus à travers l'univers. Alors qu'est-ce que nous produisons, que nous proposons aux autres? Il y a tout cela qu'il faut penser.
Voilà, merci beaucoup Pierre Célestin d'avoir accepté de contribuer dans cette émission et aussi il faut encore de lancer cette sonnette d'alarme pour permettre à ce qu'on puisse normalement réfléchir sur tous les contours de cette décision. Merci beaucoup Pierre Célestin, à très bientôt, peut-être dans un autre échange relatif à des questions sportives. Voilà, merci beaucoup, nous continuons avec Maître Sonville qui est à Lubumbashi. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, bonjour à notre auditeur, bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Okapi.
Vous avez la parole, maître Fauville.
Oui, par rapport à la thématique, monsieur JR, je dirais que l'État n'a pas seulement des droits, l'État aussi a des devoirs. Je me pose une question. Qui mettra des fonds à la disposition de ces chaînes pour faire cette invitation? Parce que dans les devoirs de l'État, il est dit que l'État congolais doit financer les chaînes de télévision. Il n'a jamais fait. Mais pourquoi seulement demander à ces conflits qu'on puisse passer à l'administration et cette dépense-là sera consentie par les responsables des chaînes? Oui, la modernité, la voulons, mais avant même d'adhérer à une institution quelconque, il faut faire d'abord l'état des lieux de vos chaînes, l'état des lieux de la manière dont fonctionnent les chaînes ici. Il ne faudrait pas seulement adhérer à n'importe quelle institution pour adhérer et pour sacrifier la population. Monsieur Gilles, je vous dirai ceci. Je suis dit, monsieur Lambert Mende, il a dit ceci. Pour les téléviseurs analogiques, il y aura des décodeurs qui seront mis en vente. Est-ce que c'est l'État congolais qui assurera ces décodeurs-là
pour la population?
Au moment où cette population ne sait même pas payer les frais scolaires de leurs enfants, ça c'est une charge qu'on ajoute encore à la population. L'État congolais doit faire un plaidoyer pour sa population par rapport à cette institution-là. On accorde un moratoire aux télévisions, même de 6 mois à une année, que ces chaînes de télévision se préparent. Vous savez d'abord que ces chaînes-là ont des difficultés pour payer leurs employés. Il y a beaucoup d'employés qui...
Oui, notre invité l'a reconnu tout à l'heure. Ouais.
Alors, beaucoup de travail qui travaillent sans contrat.
Sans contrat.
Ils ne sont pas payés. Vous comprenez un peu. Ça, ce sont des difficultés. À cette difficulté-là, il y a encore cette difficulté-là.
Un autre coût financier.
Alors,
oui, j'ai dit, à cette difficulté, vous ajoutez encore un autre coût financier.
Oui, un autre financier. Vous comprenez un peu. Et puis, le pouvoir d'achat de la population. Où est-ce que nous en sommes, monsieur Chier? Il ne faudrait pas sacrifier la population. Moi, je sais que l'État congolais est en train de prendre ses responsabilités en termes de sacrifier la population. Ou ça, peut-être qu'il y a une différence pour ne pas permettre à toutes les chaînes de télévision de faire passer peut-être la campagne électorale de tout le monde. Tout ce que c'est à ce moment-là, ça sera trop cher.
Voilà, c'est ce qui s'est dit. Dommage, nous avons vraiment souhaité avoir aussi dans cet échange un responsable de médias pour éclairer les uns les autres, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent que cette décision, derrière cette décision se cache au fait cette idée de ne pas permettre à la population d'accéder à l'information pendant la période électorale. Merci beaucoup, maître Sabine. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs votre cadre d'échange citoyen et nous vous accueillons donc avec joie, vous qui nous rejoignez. Bienvenue donc dans cette émission. Nous avons dans ces studios Ebeli Popo qui est promoteur de BRT Afrique. Qui est notre invité, Monsieur Ebeli? Vous venez de suivre en fait cette série des auditeurs. Il y a Kabbalah et également Maître Sonville qui pour eux trouvent que c'est vraiment une décision qui a été prise dans la précipitation. C'est brusque, il fallait préparer la population. Cet avis est partagé par certains auditeurs qui ont précédé ces auditeurs. Alors, comment vous réagissez-vous?
Bon, le problème est que précipitation, je ne pense pas. L'information a circulé. Parce que quand aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, il y a l'Internet, il y a la radio, il y a la télé, tout le monde a accès à l'information. Et cette décision, elle est internationale. C'est l'Union internationale des télécommunications qui a pris cette décision. Bon, il y a d'autres aspects, peut-être des choses, quand on dit ça risque de créer des problèmes, oui, effectivement, ça ne peut pas manquer. C'est-à-dire, ces genres de décisions ne peuvent que créer des problèmes. Parce qu'il y a un changement d'habitude. N'est-ce pas? Tout simplement, il y aura changement d'habitude. C'est la seule réponse que je peux donner à Maître Adrien, parce que quand on parle de l'info, les informations, ça s'achète. Ici, on est habitué au Congo de tout ramasser gratuitement. On est très habitué à la gratuité. On doit apprendre aux Congolais à travailler. On doit apprendre aux Congolais d'acheter, de se procurer des choses. Et pour se procurer quelque chose, on doit acheter. Parce que la personne qui a installé sa télévision, son groupe de presse, a investi. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai investi depuis 2006. Mon salaire mensuel est de 30-45 $. Imaginez, qu'est-ce que je donne aux journalistes? Les gens qui ont fait des universités, qui m'ont fait confiance et qui sont venus vers moi pour trouver du travail. Ces gens-là, ils doivent être rémunérés.
Mais en amont, un gouvernement responsable ne pouvait pas accepter que vous commencez cette affaire.
Mais non, j'ai investi
dans l'état de la protection de l'emploi.
J'ai investi beaucoup d'argent. Mon argent, j'ai investi et je continue à donner de l'argent à ma chaîne. Ma chaîne ne produit pas de recettes. Donc il y a un problème de réalisation des recettes au Congo. C'est pourquoi je soutiens ce que
Kabbalah dit.
Maître Adrien également. C'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernance. Parce que déjà, je prends un exemple. Les petits annonceurs qui sont chez nous, aujourd'hui, on peut citer Bras Congo, Vralima, Vodacom, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Entre ces annonceurs-là, qui ne sont pas nombreux, et nous, les opérateurs de médias, il y a des agences. On ne sait pas exactement ce que ces agences font. Ces agences n'ont pas de chaîne de télévision, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de stations radio. Mais quel rôle ils jouent? Soi-disant, ils ont des sondages qu'ils font à travers la ville de Kinshasa, à travers la RDC, pour savoir si cette chaîne-là est performante ou pas. Mm-hmm. Mais on ne voit pas ces sondages se font sur quelle base, dans quelles conditions. Voilà. Donc, ça pose un problème de gouvernance, effectivement. C'est là où les gouvernements ont ses responsabilités. Mm-hmm. Donc, il faut gérer tout ça. Parce que quelqu'un qui investit, qu'est-ce qu'il attend en contrepartie? Il attend d'abord le retour des frais investis et ensuite réaliser des recettes. C'est ça la recette. Donc c'est ça la création de la richesse. Donc on n'investit pas pour qu'on donne des informations gratuitement comme on l'a fait depuis. Mm-hmm. Depuis qu'on a libéralisé le secteur des médias au Congo, les gens ont investi, mais personne d'entre les promoteurs
peut dire bonjour de l'État.
Ça ne tombe pas. On nous a appelé une fois, on nous a donné 1 500 $, je ne sais pas combien.
À chacun.
À chaque chaîne, mais ça représente rien par rapport à nos dépenses. Aujourd'hui.
Mais il fallait quand même que le gouvernement donne ce signal qui commence quelque part.
Parce que nous avons travaillé gratuitement pour lui.
Donc il faut un état des lieux comme les
dirigeants. Mais nous avons constitué l'opium pour le peuple. Nous avons aidé le peuple à être informé, éduqué, rééduqué. On a rééduqué la population. Donc le gouvernement doit prendre sa responsabilité ou ses responsabilités afin de nous accompagner. Mais j'ai suivi quand même le ministre Mende. Il a dit qu'il y aura une période de moratoire d'ici 6 mois ou une année. Parce que je crois qu'en Afrique du Sud, et ils ont renvoyé ça à 2020, alors que chez eux, la technologie est très, très avancée. Donc chez nous, il ne faut pas qu'on se jette comme ça dans l'eau. Je crois qu'il faut réfléchir encore, parce que chaque pays est souverain dans ce que nous faisons avec l'UIT. Donc on peut dire, bon, on renvoie dans une année, 2 ans, les temps de s'organiser parce qu'il y a un problème réel de gouvernance.
Alors il faut un dialogue entre les gouvernements et
l'État des lieux, comme l'a demandé un de vos auditeurs. Donc il faut quelque part un moratoire, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'on en parle, parce que Téléconsulte, on ne sait pas exactement ce que Téléconsulte a fait, parce que ça fait quand même des années que Téléconsulte a reçu une dotation pour installer les structures, tout ça, des logistiques afin de recevoir cette mutation. Bon, où en est-on avec tout ce qu'ils ont reçu?
Il faudra évaluer nécessairement
et s'organiser, parce que l'UIT protège les opérateurs actuels.
Parce que sinon, c'est comme un électron libre.
Oui, mais il y a un problème. L'UIT protège aujourd'hui. L'UIT protège les opérateurs actuels. Mais chez nous, il n'y a pas encore une loi qui régit le secteur. On essaie de tâtonner avec des actes réglementaires qui ne peuvent pas contredire la loi qui est faite. Mais il faut une loi qui vient régir le système numérique. Il n'y en a pas encore. Nous, quand on nous a donné les fréquences, on a dit dans les rapports des experts, on a dit tout simplement qu'on attendra la loi. Mais quand même,
il faut cette loi
bien régulée. On nous a taxé d'une manière forfaitaire. Parce que jusque-là, il n'y a pas de loi. Donc, je crois que
il y a un problème.
Donc, il y a un grand problème des gouvernements.
Voilà, si vous permettez, M. Méli Popo, promoteur de DRC Africa, nous allons repasser à nouveau au standard pour écouter les auditeurs, Clovis qui est à Bujima, et Stéphane à Kinshasa, et Maurice Salari, promoteur de Kinshasa également. Clovis, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs. Merci. Ainsi que notre invité. Alors, quel est votre commentaire par rapport à cette thématique? Est-ce que vous partagez l'avis de certains professionnels qui, en fait, estiment que ce partage va nécessiter l'amélioration de la qualité des programmes proposés actuellement par les télévisions, ou une autre opinion qui soutient par contre que cette décision va constituer un défi financier pour les entreprises et pour la population?
Les deux opinions sont valables et surtout, c'est un sujet vraiment complexe. Vous savez que l'État congolais nous a déjà habitués à une gratuité d'information et c'est déjà une culture. Et pour éradiquer une culture comme celle-ci, on ne peut pas prendre les choses au hasard. Il faut vraiment un temps, il faut vraiment organiser les choses pour vraiment, afin qu'il n'y ait pas de surprises au sein de la population. Je crois que pour le moment, la décision est bonne. Ça va favoriser le développement dans le monde technologique et aussi pour le système numérique. Mais aussi, on ne peut pas aller avec les choses rapidement comme ça. Il faut suffisamment du temps pour tout d'abord éduquer la population et surtout que c'est déjà une culture, nous sommes déjà habitués à une gravité d'informations comme l'invité venait de le dire. Et vous savez maintenant, alors, pour éradiquer cette culture, il faut suffisamment du temps pour former et sensibiliser la population, montrer les biens fondés de la télévision numérique et aussi pour montrer l'importance que cette télévision numérique, ce système numérique va apporter à la population. Mais d'un coup comme ça, je crois que ça va poser vraiment un
problème
financier. Et entre-temps, je me dis, mais quelle sera la conséquence des télévisions analogiques juste après? On va les jeter, on va les vendre.
Oui, Clovis, il y a un autre auditeur qui vous a précédé, Pierre Félix Kabbalah, qui a même proposé, au fait, après avoir assisté aux assises de Dakar, par rapport à cette question, que dans les jours à venir, que d'autres supports, soit des bandes, puissent être échangés avec d'autres promoteurs qui pouvaient l'utiliser autrement. Donc, voir un peu dans quelle mesure on pouvait se passer quand même les panneaux sans problème. Donc là, de ce côté-là, le problème ne se pose pas. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi en amont pour trouver des solutions. Stéphane, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Stéphane. Stéphane, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, grand monsieur, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Stéphane, si vous pouvez parler un peu fort, là, parce qu'on vous attend à peine.
Oui, je suis désolé par cette décision. C'est une décision que nous pouvons appeler, nous pouvons appeler une décision impopulaire, parce que celle qui n'a pas tenu compte des réalités de notre pays. Quand il s'agit des autres égards, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, a toujours parlé de la souveraineté de la RDC. Quand même, c'est une décision internationale, mais ça ne peut pas violer notre souveraineté. Quand il y a les intérêts égoïstes, là, on évoque la souveraineté nationale. La souveraineté nationale. Nous savons des gens d'ici. Ils ne savent pas que les petits peuples sont en train de souffrir. Si le plan financier, si le plan économique, c'est une décision qui ne tient pas chez vous. Le monsieur de BRPD, qui est notre invité que je respecte, et que je respecte en passant, c'est parce qu'il veut tuer la couverture de son côté, parce qu'il est bon. D'ailleurs, les utilisés de sa télévision, c'est une part de business, c'est une télévision de business. Parce qu'il se retrouve sur le plan de business, c'est tout ce qui est en train de prendre l'indépendable.
Mais oui, mais Stéphane, je crois que, pour ne pas vous couper la parole, je crois qu'à un certain niveau des choses, les organes de presse, ne fonctionnent pas comme la Croix-Rouge, par exemple, comme une organisation humanitaire. Ce sont des entreprises commerciales.
Par exemple, chez moi, j'ai un abonnement de Canal Plus. Mais ça fait, dans quelques trois jours, ça va. Je renouvelle
l'abonnement.
Mais il n'y a pas d'électricité depuis.
Bon, ça c'est notre débat. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Oui. Stéphane,
je voudrais réagir directement. Stéphane, mon frère, écoutez, vous payez facilement Canal Plus. Mais vous refusez de payer BRT Africa, qui est une chaîne de business. Donc aujourd'hui, BRT a investi. On a investi, quand on investit pour une radio, pour une télé, en tout cas dans l'ensemble, ça fait pas moins de 350 000 euros qu'on investit. Et depuis 2006, je suis pas rentré dans mes frais. J'ai investi pour quoi ? Pourtant, moi, ma vocation est d'éduquer, former, rééduquer, informer la population. Donc, si j'ai des miettes qui peuvent tomber, c'est la moindre des choses pour que je couvre les frais que j'ai investis dans... c'est pourquoi, Stéphane, je pense que quand vous payez Canal, quand vous Canal Plus, quand vous payez DSTV, quand vous payez StarTime, aujourd'hui c'est une occasion pour nous les nationaux, les locaux, de réaliser des recettes. Je crois que la moindre des choses, c'est de permettre qu'il y ait quelque part création de richesses aussi par des nationaux, pour les nationaux. Voilà un peu.
Est-ce que ça n'aura pas un coût supplémentaire quand vous accédez, disons au numérique? Il n'y a pas un coût supplémentaire pour les investisseurs?
Tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel, oui. ça fait pas moins de 400 000 balles. Ça fait pas moins de 400 000 dollars.
Maurice, c'est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, Jean-Louis.
Vous avez la parole, Maurice.
Je voulais commencer par demander d'abord, me poser la question, est-ce qu'il y a combien d'abord des Congolais qui possèdent Canal Fat, je ne sais pas combien...
Canal Plus, StarTime,
ou encore... C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on ne gère pas un pays pour la minorité. On gère le pays plutôt pour la majorité. Raison pour laquelle, même on doit accéder au pouvoir, on doit recueillir une majorité absolue ou simple. Mais aujourd'hui, lorsqu'on doit toujours faire un débat réducteur plutôt d'une certaine oligarchie, moi je pense que nous sommes en train de biaiser même ce débat ici. Nous devons comprendre ici c'est un problème en fait de pouvoir d'achat. C'est un problème de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat des Congolais représente quoi? Aujourd'hui, on ne doit pas nous donner des exemples d'autres pays, nous sommes en retard par rapport à quoi? Parce que on doit avoir certains préalables. Les préalables qui sont posés par mes prédécesseurs sont bien justifiés. Hein? Moi, j'étais au Gabon, par exemple, en 2008, où Omar Bongo inaugurait déjà en fait la fibre optique. Et mais nous ici, c'était quelle année? Il y a à peine ou pas deux ans. Donc c'est pour dire que non, on ne doit pas comparer, parce que si on doit comparer, c'est là, on doit commencer à comparer aussi les indices du développement humain.
Oui, non, alors Maurice, c'est juste une question de curiosité. Pour vous souhaiterez que nous restons en retard jusqu'à quand? Jusqu'en 2020. Notre invité l'a dit, l'Afrique du Sud a renvoyé ça en 2020. Vous demandez à ce qu'on puisse oser, qu'on puisse prendre ce courage de renvoyer ça peut-être à plus tard ou à calendrier grec.
Tout à fait, on doit remettre ça d'abord plus tard, parce qu'on doit d'abord rencontrer certains préalables par rapport, par exemple,
aux questions. Quels sont ces préalables? Le pouvoir d'achat.
Il faut d'abord que les gens, les Congolais, aient à mesure, soit plutôt à mesure, au fait, d'acheter même un poste télévisuel.
Donc, hein? nous, les opérateurs médiatiques, nous fermons.
Parce que là, vous aurez trois RTNC, je crois la 1, la 2 et la 3, et vous aurez les informations censurées comme vous voudrez. Parce que nous, jusque là, nous vous disons, nous sommes vraiment en difficulté, on sort de l'argent de sa poche pour payer, et pour moi c'est les blanchiments d'argent également, parce que quand une société que vous avez mis en place tombe déficitaire chaque année, et si vous demandez que toutes ces sociétés de médias tombe en déficit, donc nous on va fermer, on va rien faire, donc vous serez censuré, vos informations seront censurées, et voilà, donc bon voilà quoi.
Voilà, Maurice.
Je pense que il y a certaines chaînes qui sont en fait, je vois par exemple Télé 7.
Voilà.
Vous pouvez faire comme Télé 7. Télé 7 d'abord, ils sont libres parce que les Congolais d'abord ont d'autres difficultés, des énormes sur d'autres secteurs de vie, de la vie. Et je pense qu'on dit l'autre qu'on doit, de manière brutale, en fait, opérer cette limitation, ça serait quand même encore créer un autre problème. Est-ce qu'il y a encore menace d'abord? On doit nous dire s'il y a menace. Si aujourd'hui on ne passe pas, plutôt on accède pas au numérique, et il y aura
Oui, Kabbalah l'a dit, a expliqué clairement, en tout cas sur le plan technique, il y aura pratiquement des problèmes, des difficultés pour d'abord la population d'accéder. Nous aurons du noir dans nos télévisions, ça va arriver. Et puis les chaînes de télévision qui ne vont pas répondre à ces rendez-vous ne pourront pas continuer à émettre. Donc ça sera pratiquement des difficultés. Il faut que les gens se retrouvent ensemble, qu'on échange, qu'on dialogue, qu'on trouve une solution d'ensemble. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa. Félicien, vous êtes dans la ville province de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Gère, bonjour à notre invité, M. Béli Popo. Et je salue aussi les auditeurs qui nous suivent. Moi je dis que c'est pas pas mauvais quand on doit passer de l'analogique au numérique, parce qu'on ne peut pas refuser l'excellence. Donc, c'est une bonne chose que nous puissions évoluer, parce que chaque jour, nous devons chercher d'accéder au mieux être. Nous ne pouvons pas rester toujours statiques. Mais je ne comprends pas qu'un gouvernement responsable qui a les soucis du mieux être de sa population se réveille un matin et vous dit, bon, dans un mois, tout va changer, et vous devez acheter d'autres télévisions numériques. Et ceux qui ont les analogiques, ils doivent acheter des décodeurs, sinon c'est fini. Mais ce gouvernement, c'est qu'il a clochardisé son peuple, et qu'il sait que 90% est au chômage, et que ceux qui travaillent ont des salaires qui tournent autour de 40 et 50 dollars pour la plupart. Et ce gouvernement connaît le pouvoir d'achat de sa population, mais ce gouvernement-là ne se donne pas la peine de chercher à donner un moratoire ou à préparer la population petit à petit, à équiper les organes de presse même à crédit, ceux qui ne peuvent pas être à mesure d'avoir le matériel, et donner le temps à la population de se préparer. C'est depuis très longtemps que cette décision a été prise au niveau international. Mais non, on vient brusquer tout dans un mois. Vous devez changer, sinon c'est ça. Mais quand on agit comme ça, est-ce que vraiment on est un gouvernement est responsable d'un gouvernement qui s'occupe vraiment de la population? Et puis en plus, nous sommes à la veille des grandes échéances d'élections. C'est à ce moment-là qu'on veut créer des problèmes dans les médias. C'est à ce moment-là qu'on veut encore réduire la capacité des médias de transmettre ou d'atteindre toutes les couches de la population. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit agir. C'est une bonne décision. Mais on doit se préparer pour y accéder. Mais pas de cette façon-là, comme si tout est dictature, tout est imposé, tout c'est de la brutalité, tout c'est comme ça. Est-ce que vraiment c'est un problème d'intérêt personnel? Il y a des dividendes qu'on ne voudrait pas laisser à d'autres et qui font qu'il faut qu'on les fasse vite, vite, sinon ça terminera à ceux qui viendront après, ou bien c'est vraiment pour l'intérêt de la nation qu'on fait tout cela. Moi, je pense qu'il faut que les gens réfléchissent là-dessus et qu'on ne continue pas à provoquer la population.
Voilà,
il y a trop de problèmes.
Félicien, merci. Et là, vous avez évoqué un taux de chômage de 90%. Bon, nous n'avons pas cette information. Mais je crois que le Premier ministre avait dit clairement que, disons, il se félicitait d'ailleurs d'avoir réduit sensiblement à la baisse, hein, de 60 à 40%. Donc, on peut dire que, voilà, il y a des efforts qui sont menés. Félicien, bon, je crois que ça, c'est pour votre information. Merci d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Daniel de Lubumbashi. Bonjour, Daniel.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les amis qui suivent la radio Kapi en ce moment.
Vous avez la parole, Daniel.
Oui, merci, JR, pour la parole. Je dirais tout. Il y a tant de mesures dans notre pays, des décisions comme le ministre de la Conseil des pour et des contre. Nous vivons dans un pays où nous avons des inégalités très terribles, des écarts qu'on ne peut même pas évaluer, où nous avons dans un pays une minorité de gens très riches et la majorité qui est très très forte. Le numérique dont on est en train de nous parler, il y a déjà le numérique, il y a déjà des chaînes qui sont sur satellite, je ne veux pas citer ces chaînes-là. Le problème, c'est lequel? C'est que ce sont le, on veut bien que toutes nos chaînes soient aussi en numérique, mais ce sont des programmes que nos chaînes sont en train de diffuser. Je prends mon exemple. Si moi j'ai mon abonnement Canal Plus, c'est possible aussi de l'occasion pour poser ma question. Est-ce que les abonnements que nous aurons à faire encore d'autres abonnements pour suivre nos chaînes locales ou bien ces chaînes-là vont adhérer par exemple à des programmes existants, par exemple Canal Plus. J'ai Canal Plus à la maison. Je suis en train d'essayer moi. Mais je paye pour des programmes intéressants. Pour suivre, par exemple, le championnat anglais, la Ligue des champions, tous ces programmes que Canal Plus présente sont des programmes intéressants. C'est pourquoi nous payons. Mais nos chaînes ici, quand ils demain ils seront en numérique, quels sont les programmes que nos chaînes présentent? Quels sont les programmes que nos chaînes proposent? Pour tout d'abord, la NINAFU. C'est un championnat au niveau, par exemple, de la RDC qui était un championnat que nous pouvions aussi vendre de par le monde. Nous avons des équipes comme Madrid, qui est une équipe très connue de par le monde. Des équipes comme Bethel,
aussi qui s'est déjà reconnu de par l'Afrique. Tu sais que quand nos équipes l'ont joué, le reste du monde pouvait commencer à s'intéresser à notre championnat. Si le président de match de l'animation avec les ici, mais voyez avec notre championnat. C'est du bidon, c'est de la violence, ce n'est pas agréable, agréable. Mais qu'est-ce que nous pouvons te présenter d'agréable aux autres?
Aux autres, voilà.
Bien de chez nous, par exemple. Alors avec ça, les gens, est-ce qu'ils seront-ils basculés de cette analogie au numérique? Est-ce que les gens ont les moyens pour le faire?
Voilà, un problème de moyens.
La société n'a pas de moyens. C'est comme qui dirait priver aussi la population de l'information.
Mm-hmm.
Parce qu'avec l'analogie, les gens peuvent suivre les informations sur la RTNC qui peuvent suivre, les autres chaînes locales, en analogie, qui peuvent suivre. Et moi, de basculer du numérique, ça sera même priver l'information à la population. Et peut-être suivi, suivi, suivi. Mais la population, le film va être dans les villages, dans les ruelles, avec ses initiatives. Mais si vous dites que tout bascule en numérique, ça se passe.
Voilà, merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup Daniel. Là, vous avez rejoint d'ailleurs le point de vue des Armel Leclerc qui nous avait également écrit en disant que certainement il faut la numérisation pour arriver à couvrir les villages. Vous avez donné d'ailleurs l'exemple. Pour lui, la vieille technologie est coûteuse, encombrante et génère moins de revenus pour les promoteurs. Voilà, donc c'est son point de vue. Nous revenons à vous, hein, Monsieur Béli Popo. Réaction par rapport à cette deuxième série.
Oui, moi je dis les bouquets doivent être payants. Les bouquets doivent être payants, c'est pour permettre aux chaînes et aux opérateurs de médias de faire une bonne production. Parce que la production, comme notre frère, le dernier intervenant, je crois l'avant-dernier intervenant l'a dit tout à l'heure, pour que qu'il puisse avoir une bonne production, il faut beaucoup d'investissements. Et les propriétaires des chaînes aujourd'hui ne peuvent pas trouver de moyens pour faire cette production. Je vous donne un exemple. C'est que nous regardons, soi-disant, les cinémas nigériens. Les cinémas nigériens qu'on interprète souvent ici chez nous sur des chaînes. Mais les théâtres que nos jeunes gens font ici, s'il y avait des moyens costauds pour faire une bonne production des séries de théâtre, donc vous allez voir qu'on va vendre. J'ai pris l'initiative de faire un documentaire. Parce qu'il y a des fourmis à l'équateur qu'on ne trouve pas partout au monde. Donc, mais pour faire ces genres de productions, qui peut prendre 3 mois, 4, 5, 6 mois,
il faut des moyens.
Parce qu'il n'y a pas d'électricité au fin fond des villages, là où on peut trouver ces fourmis, et essayer de suivre leur cycle jusqu'à ce que des œufs, jusqu'à ce qu'ils vont éclore et puis grandir. Donc, il y a ce travail-là à faire. Il faut des moyens. Et pour avoir des moyens, je crois que des bouquets doivent être payants.
Et déjà, il y a un problème des réseaux de financement.
Voilà.
Il y a un problème.
Je suis un banquier. Il n'y a pas de banque au Congo.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de banque. Ce sont des messageries financières qui se sont installées pour faire de l'argent, tout simplement sur la tête des Congolais. Il n'y a pas de banque. Ces banques-là qui courent derrière quelques 250 clients, et ces clients-là, ce sont des firmes internationales qui se sont installées ici chez nous. C'est fini. Mais il n'y a aucune banque qui viendra comme ça pour financer ces gens d'opérateurs.
Il y a certaines brassicoles qui...
Après l'intervention de M. Lambert Mindé concernant l'histoire des bouquets, je crois que les banques pouvaient nous appeler. Nous, les chaînes de télévision, parce que nous avons des comptes chez eux. Et tous ces comptes sont en rouge. C'est des comptes débiteurs. Elles pouvaient nous appeler pour dire, une occasion. Donc nous, on va financer afin que vous pouvez réaliser des recettes pour nous. Aucune banque ne
peut manquer d'intérêt. Parce que s'ils gagnent chez les musiciens, par exemple,
Bancables.
Il faut des projets bancables.
Parce que moi, j'ai des études de faisabilité sur la télédistribution RDC. Je peux mettre ça à $5 par mois pour 180 chaînes. Je peux mettre à $10 par mois pour 180 programmes. Et ça fait de l'argent.
Bon, peut-être que les banques trouvent que dans la télédistribution, c'est pas le projet qui peut qu'elles peuvent rentabiliser.
Mais je vous dis, je crois que directement après la communication, le téléphone, la télédistribution vient juste après. Je crois qu'après le pétrole, c'est la télécommunication. Directement après. Donc si c'était
donc, manque à gagner pour l'État dans cette
situation. Tout ça, c'est un problème de gouvernance aussi, parce que l'État, les propos du ministre Mende, c'est des propos. important. Je crois que son collègue de finance pouvait prendre ça, son collègue de l'économie, ils pouvaient se rencontrer très rapidement. Ils appellent nous, les opérateurs de médias, pour dire, mais écoutez, mettez-vous ensemble, nous on va demander à vos banques de vous financer. Et un État, quelque part, dans le monde, il y a des États qui agissent de cette façon.
Tout à fait.
Donc, nous, ce n'est pas à nous de pleurnicher tout le temps. Mmh. Hein, on ne doit pas pleurnicher tout le temps. On a travaillé dans la gratuité pendant des années. Aujourd'hui, pour nous, c'est une occasion pour qu'on puisse rentrer dans nos frais. Donc, on ne peut que faire
oui, pas. Il y avait une inquiétude d'un auditeur là, qui, oui. En fait, s'est posé la question. Aujourd'hui, la population a accès, certes, à l'information facilement,
gratuitement
d'ailleurs,
gratuitement,
avec la
pendant des années.
Mais oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si peut-être c'est une mauvaise façon pour moi de penser que c'est un problème des choix qu'il faut opérer maintenant.
Mais c'est un problème de choix parce que
cette
même population a un téléphone et cette même population paye l'internet pour accéder aux informations de foot.
Donc un bouquet payant c'est un choix.
Mais c'est un problème de choix.
Mmh.
Si on veut le luxe, on cherche
un luxe.
Si on ne veut pas, allez,
on regarde les chaînes qui seront claires.
Ce sont des chaînes publiques.
Oui.
Voilà. Pour moi, comme étant, j'agis de cette façon. Parce que j'ai investi, j'ai dépensé mon argent pour lequel je n'arrive pas à entrer dans mes frais.
Voilà. Donc le problème, d'une part, on reconnaît qu'il y a vraiment un défi financier pour les entreprises
oui.
Et aussi pour la population, mais on n'en peut rien, il faut faire avec.
C'est ça.
Il faut faire avec, parce que c'est comme ça que le monde marche.
Voir les choses en termes des élections, je ne pense pas. Parce que la date a été fixée par GE6, donc en 2006. Je crois qu'ils ont fixé, même avant. Donc ils ont fixé ça depuis longtemps, ça n'avait rien à voir avec les calendriers électoraux. Donc il y a des choses, parfois quand on dit, et, parce que vous savez, votre radio est entendue, suivie un peu partout à travers le monde, il ne faut pas qu'on politise des choses qui ne sont pas politisables.
Mmh. Voilà. Donc comme l'a dit Armel, certainement il faut la numérisation pour arriver à couvrir les villages.
Voilà.
Donc ça sera une occasion pour la RDC d'être vraiment au rendez-vous du donné.
Voilà. Et maintenant, il y aura la demande aussi de l'énergie électrique. Il faudra répondre à cela. Dit-on, ceux qui ont fait le droit disent que les faits précèdent le droit. Maintenant, les faits sont en train de précéder les droits. Il faut qu'on se rattrape. Vous savez, on a eu un petit problème des télécommunications et des communications dans la ville de Kinshasa. Je pense tellement la ville de Kinshasa parce que c'est là où nous
vivons. On va poursuivre avec vous.
Oui.
Le temps de dire merci à Dieu, merci Manono, Matala de Lumbashi, Richard de Kinshasa.
Oui.
Nous vous demandons, chers auditeurs, de garder la ligne. On va vous accorder la parole après cette petite pause. Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous parlions tout à l'heure, avant les flashs de formation, avec notre invité, Émilie Popo. Vous avez informé que les faits précèdent le droit.
Le fait précède le droit. Et c'est que nous avons connu dans notre ville de Kinshasa, je prends le cas des villes de Kinshasa, on avait la situation de téléphone fixe dans un état délabré. Ça ne marchait plus. Donc la ville de Kinshasa, il a fallu se déplacer. Très rapidement, on a commencé le téléphone mobile. Avec quoi ? Avec Telecel et Comcel. Ensuite, le GSM qui est arrivé. Donc, si on devait, nous, essayer de réhabiliter les téléphones fixes qui demandaient des câbles souterrains, tout ça, on n'en serait pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Donc d'un coup, on a sauté d'un pas, de plusieurs pas, pour tomber dans les systèmes technologiques avancés de téléphones mobiles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. Donc on doit faire un effort d'atteindre ces niveaux-là aussi de la haute qualité. Parce qu'il y a des moments où vous achetez des appareils à l'extérieur, avant. À l'époque, vous achetez, il a fallu voir les standards.
C'est
pour qu'on tropicalise. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, vous achetez partout au monde, amenez et directement vous branchez et ça marche. Donc on ne doit pas être toujours en reculant. On doit faire un effort de rattraper aussi le monde. Parce que le monde est un village aujourd'hui technologique.
Voilà, on va prendre la dernière série des auditeurs avec Dieu merci qui est à Manono. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard.
Vous avez la parole, Dieu merci. Comment vous commentez cette actualité?
Oui, c'est une bonne actualité, mais moi, ce que je regrette dans notre pays, monsieur Gérard, c'est de voir, il y a des bonnes décisions qui sont prises parfois, mais qui finissent par se transformer à une tracasserie, je dirais, de la population. Pourquoi j'ai utilisé ce terme tracasserie? Bon, la décision en soi est bonne, n'est pas mauvaise. Mais il faut aussi tenir compte de certains facteurs, comme mes prédécesseurs ont parlé du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, Monsieur Gir, je vais vous dire comme à mon nom ici. Il faut voir, il faut compter le nombre de personnes qui sont abonnées sur Canal Plus, ainsi de suite. Et c'est juste un problème. Voilà pourquoi nous allons préconiser d'abord la sensibilisation. On ne peut pas vraiment chercher les luttes dans la précipitation. Non. Il faut d'abord sensibiliser la population, amener cette population à comprendre le bien fondé de ce qu'on veut faire. Oui, quitter l'analogie au numérique, qui n'est pas mauvais, c'est très bonne chose. Nous ne pouvons pas toujours accepter d'être maintenus dans le retard. On peut prendre cette décision dans la précipitation du 6 juin, on interdit, mais on verra que certains milliers n'auront plus l'accès à l'information. Mais quel sera le résultat? Ça sera le résultat.
Merci
voilà
beaucoup.
Pourquoi on va demander d'abord de commencer par la sensibilisation des citoyens, des citoyens congolais, qui vont comprendre ce qu'on veut faire.
Bien entendu, si de cette
oui, allô?
Merci beaucoup, Dieu merci. Là, vous rejoignez l'ingénieur Freddy Moukapouli, de Goma, qui nous a écrit en disant que le passage de l'analogie au numérique demande une bonne planification. Les pouvoirs d'achat des Congolais ne vont pas permettre à tout un chacun de se procurer les matériels pour avoir les signaux de télévision. Par contre, aller fournir à sa population des matériaux à un prix abordable, exemple parabole, décodeur et tant d'autres. Matala, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard.
Vous avez la parole, Matala.
Je salue aussi
notre invité.
Les auditeurs de la radio.
Merci.
Bon, moi, ma préoccupation, elle est de cet ordre, parce que en République démocratique du Congo, nous avons plusieurs chaînes. Et quand vous suivez toutes ces chaînes, ce sont des caisses de résonance. Nous n'avons pas de bonne qualité d'émission, nous n'avons pas de bonne qualité en plus de problèmes, si je peux bien le dire. Si nous nous abonnons facilement aux chaînes étrangères, c'est à cause de la qualité de ces programmes. Et les chaînes que nous avons en République démocratique du Congo sont des caisses de résonance tout simplement, pour présenter souvent les politiciens, parfois, on nous présente des choses qui ne ressemblent pas à ce que la population devait suivre. Mais, par exemple, pour la radio Okapi. La radio Okapi est suivie à travers toute la République démocratique du Congo. Parce que moi, j'ai besoin d'une information qui concerne mon pays. J'irai facilement sur des chaînes étrangères et sur les chaînes locales. Je pense qu'on devait d'abord songer à améliorer la qualité de
l'offre de l'information,
le programme de nos chaînes, avant d'envisager autre chose. Quant à ce qu'on dit que ça va coûter trop cher, ça a toujours coûté trop cher, parce qu'il y a des gens, parce que il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il touchait 50 dollars, mais si vous allez chez lui, il a la télévision numérique qui coûte dans les 500 et 600 dollars. Le Congolais est habitué à tous ces coûts. Ça ne va pas nous surprendre parce que les parents aujourd'hui supportent les enseignants, ça ne fait rien, les enfants étudient, il y a des enfants ou des parents qui tout est dans dollars, mais les enfants étudient dans les écoles où on paye par mois 200-300 dollars, nous sommes habitués. Mais qu'on nous améliore la qualité de ce qu'on doit suivre, et c'est à partir de la qualité que nous pouvons nous permettre de pouvoir nous abonner sur nos chaînes locales. Voilà ma préoccupation.
Merci beaucoup, Matala, d'avoir appelé de Lubumbashi. Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, docteur Richard.
Bonjour, J.R., bonjour à l'invité.
Bonjour.
À l'introduction, je dirais, moi j'avais cru que c'était les savants congolais qui avaient modifié le passage de l'analogie à ce que nous disons aujourd'hui, en considérant la brutalité avec laquelle l'information était donnée par M. Mende. Peut-être on nous a dit comme ça parce que nous méritons la tombe commune comme nous sommes tous des indigents. Deuxième chose, je crois qu'on devait d'abord, au lieu de passer à la télé, commencer à expliquer ou à la radio Okapi, on devait rentrer dans la communauté nous expliquer. Les gens ont besoin de l'information avant de vivre cette révolution technologique.
Oui, docteur Richard. Oui, docteur Richard.
Oui,
vous trouvez, quelle est votre position par rapport à ces deux points de vue qui sont dégagés dans cette thématique par certains professionnels des médias, estiment que ces passages vont nécessiter l'amélioration de la qualité des programmes proposés actuellement par les télévisions. Une autre opinion soutient par contre que cette décision va constituer un défi financier pour les entreprises et pour la population.
Oui, mais pourquoi on explique un peu la qualité des informateurs, c'est quoi? Pour moi, la qualité, c'est le contenu. Le contenu est bidon dans plusieurs médias. Bidon, je peux vous expliquer. Quand vous allez dans nos bureaux, là où il y a même des licenciés, vous demandez pourquoi on fait le ruissage de Pondou, de la construction, même les femmes de médias. Quel est un projet pour qu'on les forme? Qu'est-ce qu'on appelle qualité des informations? Qualité des émissions? C'est ça. Alors, deuxième chose, le défi sur le plan financier.
Il y aura
le défi. Alors, pour moi, on doit faire sur soi cette aventure technologique.
Merci.
Les pays africains qui sont plus soutenus que nous.
Merci beaucoup, Dr. Richard, parce que le temps nous allons.
Ici, chez nous, pour en matière de sécurité.
On va prendre Bena, qui est à Kinshasa également. Bena, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Bena.
Ok, pour gagner du temps, après avoir suivi tous les intervenants, je me permets d'adresser directement une demande au ministre Mende de renvoyer à plus tard cette décision de la technologie numérique. Parce que ça crée déjà polémique, alors que c'est une bonne intention du gouvernement de faire avancer le pays sur le plan technologique. Et puis je tiens aussi, il ne faut pas qu'on pense toujours que la RDC n'a qu'un retard technologique. La RDC a un retard déplorable dans le gouvernance et sur le plan sécuritaire et consorts. Et la fierté du gouvernement de faire entrer le pays dans les concerts technologiques du monde ne doit pas être une priorité. Au contraire, c'est une fierté d'avoir gagné le pari de la sécurité, d'avoir gagné le pari du revenu national, tout ça. Donc soyons d'abord fiers de résoudre les problèmes internes avant de voir cette fierté-là, de dire, voilà, nous sommes dans les concerts des nations, c'est numérique à l'analogie. Parce que M. Célestin, qui m'a précédé plus tard là, a bien décrit les enjeux. Donc on ne souhaite pas qu'il y ait, après une bonne décision, après une bonne intention, que le peuple se retrouve buté à des difficultés économiques. Voilà un peu ma petite contribution.
Merci beaucoup, Bena, d'avoir appelé. Nous revenons dans ce studio avec vous, Émilie Popo, notre invité. Je crois qu'en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette dernière série
bon,
et aussi par rapport à tous les prédécesseurs.
Ouais, on peut retenir ceci. Au fait, on accuse toujours les opérateurs nationaux de caisses de résonance. Je ne pense pas. C'est grâce à ces opérateurs-là qu'aujourd'hui l'opposition prend une place de choix dans le média. Si vous suivez beaucoup de chaînes, aujourd'hui, avant on fermait, mais aujourd'hui ils peuvent plus fermer parce que il y a tout un mécanisme qui a été mis en place. Si on veut fermer, on va fermer toutes les chaînes parce que les gens de l'opposition ont mis en place des systèmes d'information qui passent dans toutes les chaînes aujourd'hui. Donc, on peut quand même nous féliciter, nous qui avions investi dans ce secteur et qui avions travaillé gratuitement jusque-là, gratuitement pour tout le monde, ni l'État ne nous félicite, ni la population nous jette de la pierre aujourd'hui parce qu'on veut quand même réaliser des recettes. Mais Okapi, on ne peut pas comparer la radio Okapi, le système Okapi, qui est un système de Nations Unies, avec même pas avec la chaîne nationale. La chaîne nationale ne peut pas faire le travail qu'Okapi est en train de faire. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a suivi? Flash Info, on nous donne les informations des Manono. Posez la question aujourd'hui à la rédaction de la RTNC, ils n'ont pas encore cette information. Donc la radio
Okapi, même dans votre rédaction,
Mais là, pour moi, vous voyez, depuis que vous faites vous donnez des informations, je secoue la tête parce que vous êtes à jour. Les gens qui sont en train de quitter leur village, là, maintenant, pour aller chercher des refuges, vous êtes avec eux.
L'information de terroir.
Vous êtes avec eux, donc vous êtes informés. Donc, améliorer les qualités. On ne peut pas vouloir quelque chose on ne peut pas vouloir quelque chose et dire son contraire. La mauvaise qualité de nos émissions parce qu'on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir des moyens pour avoir des bonnes productions. Tout simplement, qu'on arrête de confondre l'accordé et le travail. Nous devons travailler.
Voilà, Ebeli Popo, promoteur de BRT Africa et la radio BR FM, et aussi promoteur d'une société de télédistribution, Business Television Network. Merci d'avoir accepté notre invitation et aussi pour modérer ces débats avec les auditeurs autour de cette question de passage de l'analogie à la diffusion télévisuelle numérique. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, nous remercions également à Dieudonné Nyakata qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Pesa Bongonda, un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lou Nguembo sous la supervision de l'ODAF Moulamba. À très bientôt.